Donc j'ai téléphoné à France Inter pour savoir si c'était Alain Rey qui pouvait abandonner de lui-même, hein, c'était son droit, ou si c'était une décision de la rédaction de supprimer ce moment. Oh, stupeur que c'est la direction de la rédaction qui fait arrêter. Donc pour moi, c'est stupéfiant. C'est-à-dire, voilà un monsieur qui nous donne une définition de mots de façon intelligente, branchée sur l'actualité, de façon très pertinente. Pour un gars du peuple, c'est vraiment une initiation, une définition de mots qui actualisée et vivante. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Paoli qui lui a dit que s'il était au Japon, il aurait la qualification de trésor public. Oui, parfaitement. Donc, c'est stupéfiant de supprimer 3 minutes. Vous imaginez 3 minutes, là, 3 pauvres minutes. C'est minable.
Il y a quelques jours, je suis intervenu à France Inter parce que je craignais qu'Alain Rey allait disparaître. Or, il se trouve que Alain Rey, sous le poids des compliments et des félicitations qu'il a reçues ce matin, il n'a pas du tout polémiqué sur son départ. Je craignais aussi, lors de mon intervention, sur l'avenir de Frédéric Bonneau et de son émission Charivari. Mais il nous a expliqué hier, mercredi, qu'il n'était pas un martyr médiatique nécessitant un soutien pétitionnaire sur Internet. Merci de la parenthèse. Et bon, ça se comprend parce qu'à la rentrée, d'après ce qu'il nous a expliqué mercredi, il aurait une émission de 16h30 à 18h, ce qui confirmerait la disparition de ton émission. Moi, depuis 10 ans, grâce ou à cause de toi, je suis intervenu des dizaines de fois sur France Inter pour des coups de gueule, des coups de cœur ou simplement relayer des infos. Je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de continuer à le faire à partir de septembre. Moi, quand je t'ai rencontré, Daniel, il y a maintenant pratiquement 10 ans, j'étais un cadre dynamique à 2 400 € par mois. Maintenant, je suis aux ASS à 430 € par mois. Comme ascenseur social, là-bas, si j'y suis, c'est sûr qu'on peut faire mieux. Mais enfin, pour ce qui me concerne personnellement, j'ai appris à faire des choses, j'ai compris certaines choses et j'ai appris à faire des choix. La vie est belle et on va faire des repères tous les 15 jours à Montauroux sur la place du village au bar du Clos. Et on le fait pour toi, on le fait pour tous ceux de l'équipe et pour les auditeurs de là-bas si j'y suis qui passeraient dans le coin, dans le Var, du côté de Montauroux, Fayence, pendant cet été. Moi personnellement, même si tu étais déprogrammé à 15h, je trouve que ça serait intéressant de faire en sorte qu'ils aient 600 000 auditeurs à 15h. Je pense que ça les ferait bien chier. Mais je dis ça, j'avoue que je suis pas honnête, c'est parce que ça serait pour avoir toujours le plaisir à t'entendre et à vous entendre. De toute façon, c'est peut-être la dernière intervention. C'est vrai que ça fait quand même un petit peu bizarre de savoir qu'à partir de demain, s'il faut, on ne retrouvera plus. Ah ben, si j'y suis, moi, franchement, je m'y étais un peu trop habitué, je pense. Toujours est-il que la première rencontre de soutien à Daniel Mermet à son équipe, Espace de Liberté en voie de disparition, aura lieu à Montauroux, vendredi 30 juin, au bar du Clos, de 20h à 22h. Et puis ensuite, pour ce qui me concerne et quelques autres, tous les 15 jours, au bar du Clos, à Montauroux. Ciao, viva. Eric, à Fayence.
Il est 23h37, je rentre actuellement de l'émission, de la soirée, et je te remercie beaucoup pour tous les intervenants, et particulièrement Alain Rey, Louis Bozon, tous ceux qui font notre radio, à nous, auditeurs. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, et j'espère que ce fichu directeur pourra entendre raison. Voilà, Daniel. Au revoir.
Attention, cher Daniel. J'ai signé la pétition et je sors même du gymnase Japy. Mais, c'est pas pour ça que je prends tout le package. Voilà. Je m'explique. C'est pas parce que je défends un service public vraiment digne de ce nom que j'étais contre la Constitution européenne, par exemple. C'est pas parce que je proteste contre le décervelage généralisé que je soutiens toutes les thèses de Serge Halimi. Peut-être encore moins celle du monde diplo qui répond souvent aux questions avant de les avoir posées. Mais ça ne m'empêche pas de plaider pour l'intelligence, la diversité, la créativité, dont France Inter a fait preuve jusqu'à maintenant. L'autre jour, je me disais, tiens, c'est peut-être la seule radio que je peux écouter toute la journée sans avoir honte. Et puis voilà, je défends le grand créateur de radiophonie qui s'appelle Daniel Mermet et que j'écoute depuis des années. Voilà, je voulais simplement te dire que je ne prends peut-être pas tout. panoplie qui va avec. Bon courage et merci.
Je suis maire métomane depuis à peu près une vingtaine d'années. Ça a commencé par des prises douces avec Bienvenue à bord du Titanic. Et puis petit à petit, ça s'est durci un peu plus jusqu'à arriver à la base si j'y suis. Là, j'avoue que je suis dans une situation dramatique. J'en suis à 5 prises par semaine. C'est dur de tenir. Et j'aimerais bien décrocher. Alors, de temps en temps, il y a eu des périodes de sevrage, des étés, des grèves. J'ai tenté les produits de substitution, mais non, ça marche pas. Hein. J'ai essayé avec les grosses têtes, avec Ruquier, mais chaque fois à 17h, pour venir sur Inter, c'est dur à tenir. On m'a conseillé des produits beaucoup plus durs, comme le livre journal de Radio Courtoisie, mais bon, là, c'est le corps qui suit pas. Il y a un rejet, ça donne envie de vomir. Donc j'ai arrêté. Alors là-bas, si j'y suis menacé, moi j'avoue que c'est une bonne nouvelle. Ça, je tiens à remercier le directeur de France Inter qui envisage de supprimer, parce que honnêtement, c'est dur. Faut que les jeunes comprennent qu'on passe pas comme ça impunément des exposés comme Castoriadis, passer directement au Big Deal derrière, les retomber, c'est dur. Donc, si je pouvais avoir des émissions un peu plus légères, en plus de ça, ça ferait plaisir à tout le monde. Je pense que j'aurais du cerveau disponible pour les pubs qui suivent. Alors, j'espère que je vais pouvoir m'en sortir. Et puis, je remercie cette tribune des maires métomanes anonymes de m'avoir laissé m'exprimer. Allez, au revoir et bon courage à tous.
C'est pour annoncer que le Café Repère parisien va se maintenir tout l'été, car il s'agit de ne pas lâcher la mobilisation pour sauver là-bas si j'y suis, et faire en sorte que ce ne soit pas à 15h, mais à 17h ou même à 18h. Et donc, ce sera toujours le premier et le troisième samedi du mois au lieu dit à 16h chez Haussène, 6 rue Sorbier, Paris 20e. Demain, il y a la manifestation contre l'immigration jetable à 15h à Bastille. On a décidé de se retrouver là parce que c'est quand même indispensable d'y aller. Donc on se retrouve à la manif. Après, ceux qui veulent filent au Café Repère. Bon, ceux qui veulent y être avant, évidemment, pourront. Et ensuite, après le Café Repère, il y aura un pique-nique. Voilà.
Voilà quelques messages pour cette dernière de la Bassigie suite de la saison ou définitive, on sait toujours pas. Mais en tout cas, on voulait bien sûr d'abord commencer par remercier les 176 350 signataires de la pétition qui a été mise en ligne le 16 juin dernier. C'est un bonheur, c'est un encouragement, c'est formidable. Mais ça valait pas quand même le plaisir qu'on a eu hier soir, je vous le dis carrément, de se retrouver à la salle Japy à Paris face à 1500 à peu près, vous étiez 1500 hier soir, il faisait très chaud, c'était formidable, on a passé une soirée dont on se souviendra tout le restant de nos vies, c'était chaleureux, c'était formidable, et là on vous voyait, c'était plus notre radio à nous de ce côté du transistor, mais notre radio à tous, la vôtre et la nôtre, la seule radio que je peux écouter toute la journée sans avoir honte, 17 auditeurs et puis une collaboratrice d'Inter qui nous est très chère, Maryse, a dit la soirée c'était et le service public bordel, et c'était une soirée de rêve parce que c'était à la fois savant et populaire. On avait là des sociologues parmi les plus intransigeants, les plus pointus, avec des gens très populaires comme Louis Boson, qui représente vraiment ce que notre radio est plus populaire. Ces deux figures étaient l'une à côté de l'autre, et c'est ça au fond dont nous rêvons depuis si longtemps, faire quelque chose qui soit à la fois savant et populaire. C'est une définition qu'on a donné du jazz, qui est une musique qui est le symbole aussi de cette n'oublions pas que ce petit indicatif que vous entendez depuis 1989, c'est un petit morceau de jazz avec la trompette de Miles. Donc on va passer ces dernières heures de la base, j'y suis, peut-être pas la dernière, on sait pas encore, les pourparlers ne sont pas n'ont pas encore abouti avec la nouvelle direction de France Inter, donc pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas on va passer cette soirée, enfin cette heure, avec la soirée hier au gymnase Japy à Paris.
Peut-être sommes-nous un peu des bourgeois. Toulon, nous sommes peut-être des conservateurs. On aime notre petit créneau horaire.
Moi, je suis chauffeur de bus.
Je suis venu de Lautrec, du Tarn.
J'ai 31 ans.
Je suis à la retraite maintenant.
Surtout le côté, bah voilà, il y a plein de monde. Moi, j'espère, hein, j'ai pas fait 100 km ce soir pour rien.
Ah oui?
Ah bah oui.
D'où venez-vous?
Moi, je viens de Normandie, enfin des portes de la Normandie.
Et c'est vrai que tout ce qui touche France Inter, ça m'accompagne, donc ça me fait plaisir de rencontrer les gens.
Alors, moi, je sais pas si ça représente beaucoup de monde, la réunion de ce soir. Moi, je suis content parce qu'il y a du monde. Bah, on défend notre émission.
Et que j'ai fait le déplacement du 95 ce soir, tout spécialement pour écouter ce que ces messieurs que j'aime bien entendre, avaient à dire.
Bah, chacun son moyen de lutte, quoi. RATP, c'est la grève sur nos salaires. Et voilà, quoi. Mermet, c'est essayer de rassembler le maximum de gens pour lutter contre les décisions à venir.
Je crois que ça commence là.
Ouais, le bain.
Salut, c'est Daniel Mermet avec toute l'équipe de La Basse J'y suis et quelques milliers d'auditeurs.
Ok. Merci à vous. Je me demande ce que vous faites là, en fait. Tout ça pour une émission de radio qui serait peut-être déplacée, mais c'est pas sûr. C'est quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie concentrée. Vous me donnez l'impression d'être des gens qui ont peur du changement, qui est un peu archaïque pour tout dire et un peu conservateur. Pour vous, le changement d'une émission de radio d'une heure ou de deux heures, c'est tout de suite une chasse aux sorcières, il y a une reprise en main, il y a que sais-je. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a absolument rien de tout ça. On déplace une émission en toute liberté. On licencie un chroniqueur qui est là depuis 13 ans, qui est aimé par les auditeurs. On n'a pas de compte à rendre. Mais quand même, on va passer cette soirée. On va passer cette soirée avec un certain nombre d'invités, de chercheurs, de journalistes, de syndicalistes qui vont essayer de parler des médias aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle le plus possible du service public, bien évidemment, et du service public de la radio, puisque nous sommes à l'intérieur de Radio France, de France Inter, nombreux à être inquiets de ce qui se passe actuellement, et vous montrer qu'à l'extérieur, vous qui êtes les auditeurs, vous êtes inquiet, vous aussi. Je vais commencer, évidemment, par donner la parole à Alain Rey, qui ce matin... a dit salut. Alain, pourquoi avoir choisi ce mot ?
Bah parce que saluer, c'est formidable. C'est la saluer, c'est quand même assurer la santé et le bonheur aux gens à qui on s'adresse. Et c'est beaucoup mieux que adieu, que je trouve parfaitement hypocrite quand on n'y croit pas. Et que au revoir, qui est quand même un terme qui est assez mal adapté à la radio, puisque la radio, ça devrait être au réentendre, qu'on ne dit pas et on a tort. Et là, je sens que je vais être obligé de remercier la direction et la présidence parce que, sans elle, je n'aurais pas eu cette chance inouïe qui est de voir ceux à qui je m'adresse et ceux qui m'écrivent très souvent. La radio est un médium aveugle, et là, grâce à des événements comme celui-ci, on voit les gens à qui on parle. On nous parle beaucoup de proximité, on fait en ce moment beaucoup de choses pour l'éviter, et là, c'est sûr que là-bas, si j'y suis, qui est quand même un titre assez insensé, il faut bien le dire, c'est « va voir là-bas si j'y suis », c'est-à-dire c'est une sorte de, d'injonction ironique à des gens qui vous font chier, à qui on dit « allez voir ailleurs », et si j'y étais, je vous parlerais, mais par définition, j'y suis pas. Là-bas, si j'y suis, ça veut dire « je suis ici et viens avec moi ». Voilà ce que ça veut dire. Pour une fois, ce micro correspond à des visages, à des corps. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'on est dans un gymnase. Vous savez ce que ça veut dire en grec? Ça veut dire à poil. Tout le monde à poil, c'est pas vraiment le moment. Gymnos, c'est nu. Et ça va devenir intéressant parce que je pense que la température va monter peu à peu. Bon.
OK. Vous retrouvez sa voix de temps en temps dans l'émission mensuelle que nous faisons avec le Monde Diplomatique. Donc voilà, Serge Halimi du Monde Diplomatique est avec nous.
Merci. Merci. Nous avons besoin de médias publics qui remplissent une mission de service public. Nous avons besoin de médias qui nous parlent, par exemple, de Lagardère autrement que pour vanter ses talents de sportif. Qui nous parle de Lagardère et des 800 millions d'euros réalisés par son groupe en vendant au meilleur cours les actions de ADS et en les vendant aux contribuables via la Caisse des dépôts qui les a rachetés. Pas de chance pour nous, bonne pioche pour lui. Nous avons besoin de médias qui nous parlent de l'arrangement fiscal conclu entre Arnaud Lagardère et Nicolas Sarkozy, alors à Bercy, en 2004, au moment de payer les droits de succession d'Arnaud, bon ami de Nicolas. Et nous ne comptons pas trop sur Europe 1, Paris Match, l'UMP ou la plupart des partis de gauche pour soulever ces lièvres-là, et quelques autres. Nous avons besoin de médias qui nous parlent de Bernard Arnault, première fortune de France, autrement que pour s'émerveiller devant la robe de mariée de sa fille, le jour de la cérémonie nuptiale à laquelle assistait Nicolas Sarkozy et une escouade de photographes de Paris Match, qui nous parle de Bernard Arnault et de ceux qui triment pour lui assurer, à lui et à ses héritiers, son train de vie digne d'un roi de France. Nous avons besoin de médias qui nous parlent de François Pinault, autrement que pour vanter sa collection d'art à Venise, autrement que pour s'émerveiller de la réception d'inauguration à laquelle se sont pressées 920 personnes, un peu moins qu'ici ce soir, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes. 920 personnes, dont Martin Bouygues, Bernard Kouchner, Ernest-Antoine Sellière, Bernard-Henri Lévy, mais aussi 160 avions privés, tellement nombreux dans le ciel de Venise qu'il fallut en détourner la moitié vers les aéroports de Trévise et de Padoue. Ce qui obligea leurs propriétaires, les malheureux, à louer des hélicoptères pour rejoindre à temps la réception du grand mécène François Pinault. Oui, Thierry Breton a raison. Thierry Breton a raison, la France vit au-dessus de ses moyens. Et loué soit François Pinault, qui possède le point, grâce à qui quelques salutaires leçons d'économie au pluriel, nous sont prodigués. Comme aujourd'hui, cette semaine, le jour même où sort le plan B qui nous rappelle la cérémonie de Venise, le point qui consacre sa couverture, vous ne pouvez pas tous voir, j'imagine, à moins d'avoir une très bonne vue, aux tricheurs du chômage. À ce que le point appelle la fraude au RMI, à la sécu, aux ACEDIC, aux allocations chômage des intermittents. Au fait, François Pinault est aussi membre du conseil d'administration de Mittal. À mon avis, sa semaine a dû être au moins aussi bonne que celle d'un petit fraudeur au RMI. Retour en arrière, il y a 75 ans. Le 28 octobre 1934, devant le congrès du Parti radical, un parti de centre-gauche, son président Édouard Daladier s'exclame, je le cite, « 200 familles sont maîtresses de l'économie française et en fait de la politique française. Ce sont des forces qu'un État démocratique ne devrait pas tolérer, que Richelieu n'eût pas toléré dans le royaume de France. L'influence des 200 familles pèse sur le système fiscal, sur les transports, sur le crédit. Les 200 familles placent au pouvoir leurs délégués. Elles interviennent sur l'opinion publique car elles contrôlent la presse. » Fin de citation. Parmi les 200, on comptait déjà les Rothschild, Édouard est l'actuel actionnaire majoritaire de Libération. C'est lui qui vient de renvoyer Serge Julie, lequel Julie avait fait entrer le loup dans la bergerie. Parmi les 200, on trouvait aussi les deux Wendel, dont le groupe, présidé par Ernest-Antoine Sellière, qui était à Venise, possède Editis, second conglomérat d'éditeurs privés, d'éditeurs français après Hachette. Aujourd'hui, les 200 d'hier ne sont plus guère que 30 ou 40, comme ceux du CAC, et certains journalistes ouvrent des yeux d'enfant devant le monde que nombre d'entre eux ont aidé à construire et qui s'apprêtent à les détruire. La représentante de la Société des personnels de Libération confie ainsi, je la cite, « On a l'impression que toute une génération de journalistes découvre le monde dans lequel elle vit avec le départ de Julie. Ils découvrent que Libération est aussi une entreprise, qu'il y a un patron, un actionnaire, un mode de fonctionnement auquel on ne peut pas couper. » Fin de citation. Et oui, ce ne sont plus seulement des ouvriers qui sont victimes des plans de restructuration. Même candeur attendrissante quand le patron de Paris Match est débarqué par le propriétaire, Lagardère, pour avoir déplu, non pas au lecteur, mais à l'ami du propriétaire, à celui que Lagardère a appelé son frère, Nicolas Sarkozy. Au fond, Alain Genestard, le directeur viré, nous l'avait lui-même expliqué, je le cite, « Je suis un journaliste de chez Hachette, Paris Match n'est pas l'Académie française, c'est le propriétaire qui décide. » Eh oui, au revoir Alain Genestard. Au fond, ne nous plaignons pas. Si le Figaro n'appartenait pas à Dassault, qui nous parlerait sur une très belle page, très enthousiaste comme avant-hier, du lancement du Rafale fabriqué par Dassault? Et je cite l'article « Du jamais vu dans les airs, de Brest à Saint-Dizier, du Tadjikistan à la mer d'Oman, un même appareil va bientôt remplacer tous les avions de combat de l'armée de l'air comme l'aéronavale française. » Voilà du journalisme critique. Si Europe 1 n'avait pas appartenu à Lagardère et si Lagardère n'avait pas été gros actionnaire du Monde, où donc messieurs Forgeard et Lagardère auraient-ils dû s'expliquer gentiment sur leur vente d'actions de ADS auprès d'un média qui ne leur appartenait pas? Drôle d'idée. Bien peu démocratique, non? Si TF1 n'appartenait pas à Bouygues, la principale chaîne de télévision d'Europe nous parlerait de temps en temps de choses qui ne nous intéressent absolument pas, comme de la situation exécrable des droits de l'homme au Turkménistan, état dictatorial dont Bouygues est la firme de BTP vedette. Hélas, il y avait encore des médias publics, dont France Inter, qui, entre deux clips du MEDEF récités en alternance par Jean-Marc Sylvestre et par Brigitte Jean-Perrin, entre deux tunnels de propagande pour le oui au libéralisme, comme l'année dernière, pouvait nous assommer avec ces satanées informations que je viens d'évoquer. Mais il paraît qu'un homme très savant, très intelligent, qui sait tout de nous et de la radio, a décidé que nous serions tous beaucoup plus tranquilles si ce genre d'émission n'était plus diffusé qu'à 15 heures. Et c'est parce que nous ne pensons pas tout à fait comme lui que nous sommes ici ce soir.
voudrais dire, je voudrais compléter un peu ce que vient de dire Serge Halimi sur le fait que cet éventuel déplacement de cette émission n'a rien de politique, n'a absolument rien de politique. Sauf quand même quand on lit un petit rapport de la Société des journalistes de Radio France qui, le 15 juin 2005, a rencontré le président de Radio France, Monsieur Cluzel, je rappelle, longuement collaborateur de Jacques Chirac, puis c'est un intime d'Alain Juppé, il s'est converti il y a assez peu de temps au sarkozysme, il déclare assez fréquemment qu'il est à la fois, oui c'est vrai, un homme de droite, catholique et libéral. Or, au cours de cet entretien avec nos confrères, il a fait un certain nombre d'observations qui ont été retenues et qui ont eu, à l'intérieur de notre maison et de notre métier, un certain écho. Par exemple, le reportage. Voilà bientôt 17 ans que, là-bas si j'y suis, présente des reportages. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur. Mieux vaut, dit notre PDG, rester au bureau. Lire un bon rapport, connaître un dossier, mener des investigations sur Internet, que courir, micro en main, à la Courneuve, ou suivre un colloque à Toulouse. Et il ajoute devant ses confrères journalistes de Radio France, il leur dit ceci, « Pourquoi dites-vous toujours que la radio, c'est du son ?» Alors, il ajoute plus loin, dans des réflexions qui sont les siennes, « On ne peut pas lutter contre l'image. » Il est devant des hommes de radio. « On ne peut pas lutter contre l'image. Le public a besoin de voir. » C'est M. Cluzel qui le dit. « Le public a besoin de voir et se tourne vers la télé. Un reportage radio ne saurait être autre chose qu'une photographie sans image. » Voilà pour l'art radiophonique et l'expression radiophonique par ce président, directeur général de la première entreprise radiophonique en France. Je rappelle que 12 à 14 millions de Français chaque jour se portent à l'écoute d'une des radios de Radio France et ignoraient cela. Mais sur le plan un peu plus politique, il s'interroge ensuite et il se dit à mettre en lumière sans plus de décryptage, les délocalisations ou les fermetures d'usines, peut-être, avons-nous nourri le vote négatif au référendum. Encore une fois, dans le déplacement de cette émission, penser qu'il y a quelque chose de politique relève de la paranoïa, on est bien d'accord. Et pour finir, il dit ceci, c'est pas pour finir parce qu'il en dit beaucoup d'autres, mais je voudrais laisser la place aux orateurs qui viennent. C'est un travers très français de ne traiter l'actualité économique que par le seul biais sociétal. Voilà. On a parmi nous une consoeur. Journal Libération.
Bonsoir, bah donc je suis là parce que d'abord je suis l'auditrice de l'émission de Daniel.
Florence Obdard.
Je suis, comme il le disait tout à l'heure, une grande amatrice de reportages. Je trouve que dans la presse, il n'y a pas genre plus glorieux que celui-là, pour une raison très simple, c'est que quand on part en reportage et quand on en restitue un, quand on le met sur les ondes comme il le fait, etc., C'est vraiment quelque chose dont on ne sait pas comment il va finir. On sait toujours où on va, on sait comment ça va commencer, et on ne sait pas comment ça va finir. Et je crois que c'est le dernier genre journalistique qui fonctionne comme celui-là, sans doute avec un éditorial ou un billet. Vous savez en général comment ça finit, et un reportage jamais. Donc c'est la première chose que je voulais dire, c'est que l'émission de Daniel m'a toujours beaucoup touchée pour ça. Passez le petit hommage.
On s'était promis de faire ce qu'on appelle un SAM.
On s'était promis de faire la société d'admiration mutuelle.
Voilà, c'était une société d'admiration mutuelle. Alors je vais la flatter après, mais elle a commencé.
Okay.
On va prendre un petit instant de repos. On a chaud, on est très bien, on est très heureux, mais on va se reposer un petit peu. Mais auparavant, on va vous présenter une chorale. Serge Halimi a parlé de ce numéro du Point qui s'insurge contre les chômeurs abusifs. Eh bien, la chorale qui va venir là s'appelle Abat l'abus. Voilà. Voilà, Abat l'abus.
On n'est pas content du tout, du tout. Tous les chômeurs, les précaires, les stagiaires, les intérimaires, les intermittents, on galère, tout le monde chante.
On n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content du tout, du tout. Tous les chômeurs, les précaires, les stagiaires, les intérimaires, les intermittents, on galère,
tout le monde chante.
Tous les jeunes en chien, les jeunes en galère, devraient savoir que c'est tous les boîtes à cellières qui les ont mis dans cette situation, sans avenir, sans travail et sans pognon. Pour faire des cadeaux aux milliardaires, il faut des économies sur mon salaire.
On n'est pas content du tout,
du tout.
Tous les chômeurs, les précaires, les stagiaires, les intérimaires, les intermittents, on galère, tout le monde chante.
On n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content du tout,
du tout.
Tous les chômeurs, les précaires, les stagiaires, les intérimaires, les intermittents, on galère,
tout le monde chante. Qu'est-ce qu'ils racontent, ils veulent nous apprendre à savoir sourire, à savoir nous vendre. Puisque leur but c'est de nous descendre, à nous de savoir comment on va se défendre. Préparez-vous car enfin c'est pas des temps, ils jettent des gens dans la rue au mois de décembre. Trop longtemps qu'on a peur, trop longtemps qu'on se tait, et maintenant c'est à leur tour de trembler.
On n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content du tout, du tout. Tous les chômeurs, les précaires, les stagiaires, les intérimaires, les intermittents, on galère, tout le monde chante.
Parmi les animateurs et les grands noms de France Inter a l'habitude de côtoyer, de rencontrer quotidiennement le public. Il est sans doute l'un des plus populaires des animateurs de France Inter et il est le symbole de ce que notre radio France Inter a sans doute de plus populaire, au bon sens du terme évidemment. Et vous avez compris que il s'agit de Louis Boson. Voilà, Louis Boson. Voilà.
On est toujours très touchés de voir nos auditeurs, c'est ce que me disait Alain Rey tout à l'heure. Moi, j'ai le bonheur de les voir dans toutes les régions de France. Un peu à Paris, un peu dans la région parisienne, mais on est quand même beaucoup plus dans les villes et les villages. On a tous conscience, nous les producteurs, qui se sont réunis en association, en société, on a un peu conscience que le service public est en danger. En général, j'emploie jamais les grands mots dans mon émission du jeu des 1000 euros, parce que je suis pour la simplicité, mais c'est vrai que les risques sont grands, plus que jamais. Il semble, il faut bien le dire, que la nouvelle direction a le désir évident de s'aligner sur les recettes qui ont cours dans les radios commerciales. Par exemple, faire appel à des vedettes de la télévision, après tout pourquoi pas, mais surtout s'attacher à un type de débat très agité à la marque Olivier Fogiel, lequel nous est souvent cité en référence. On n'a rien contre, mais quand même. Il y a également une vulgarisation annoncée dans les émissions culturelles, avec de nombreux chroniqueurs, plutôt que des reportages, bien sûr, plus onéreux. Il y a également un désir affiché de priver France Inter de signatures et de voix de référence trop marquées, service public. Par exemple, Alain Rey, il devait rester à France Inter. Il devait rester à France Inter. C'était notre honneur. Merci.
Merci. Merci Louis Boson. Et que Louis Boson ne fait pas seulement le jeu des 1000 euros. Depuis très longtemps, Louis Boson est engagé dans les luttes syndicales et pour la défense aussi bien des cachetiers, des précaires que du public. Il y a, j'ai retrouvé accidentellement quelques lignes du cahier bleu. Le cahier bleu, c'est un cahier qui a été écrit pendant la guerre, pendant la résistance, par le Conseil national de la résistance. Et dans ce cahier bleu, il était question, on est en 1943-1944, de ce que seraient les médias après, et de ce que serait la radio après. Dans ce cahier sont consignés ces projets et ces lignes. Il s'agit, je cite, disait ce Conseil national de la résistance, de soustraire l'information aux puissances de l'argent et aux hommes d'affaires qui arriveront dans les fourgons des armées de libération pour mettre la main sur notre radio. C'est ainsi, c'est avec ces mots qu'a été créée la radiodiffusion française, qui ensuite est devenue la RTF, et puis l'ORTF, et puis Radio France aujourd'hui. C'est un peu de ce souffle venu de la résistance que nous défendons aujourd'hui et qui passe par les paroles qu'on vient d'entendre, par la voix de Louis Bozon, comme d'Alain Rey. La question, bien sûr, c'est de qui est-ce qui cause dans le poste et de qui on cause dans le poste. Est-ce que le France Inter représente la France? Est-ce que les Français se représentent dans ces images que quotidiennement nous produisons et nous proposons? Certainement pas. Et par exemple, le monde du travail. Et par exemple, le monde syndical a beaucoup de mal à exister dans ce genre de radio. Voilà pourquoi, à côté de moi, j'ai Annick Coupé, que vous pouvez applaudir. C'est une figure du syndicalisme, à la base du syndicat Sud, aujourd'hui solidaire. Annick Coupé.
Merci. C'était pas prévu que je vienne ce soir, mais évidemment, quand j'ai su ce qui se passait, qu'il y avait ce soir ce rendez-vous, il fallait que je sois là. Il fallait d'abord que je sois là, tout simplement par solidarité. Et c'est un mot fort, la solidarité, avec E3 et avec tous ceux qui, dans France Inter et dans Radio France, se battent pour la défense du service public. Mais je crois d'abord que s'ils ont un grand défaut, eux, je crois que le grand défaut qu'ils ont, c'est qu'ils croient à l'intelligence des auditeurs et des auditrices. Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut leur faire payer. Parce qu'effectivement, dans ce pays, maintenant, on veut des citoyens et des citoyennes qui soient totalement aliénés, qui soient des moutons blancs et surtout pas des moutons noirs. Donc, je dirais qu'au-delà des questions politiques, mais on est vraiment là dans le cœur de la politique, c'est ça qu'on n'accepte pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on les met dehors ou en tous les cas, on les met vers la porte de la sortie. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'ils ont un grand mérite. C'est celui, effectivement, de parler des gens d'ici, des gens de là-bas. Bref, de parler de vous, de nous, des luttes, des résistances, mais aussi de la vie de chacun tous les jours. Et ça, je dirais, eh bien, c'est des vrais moments de bonheur. Et je dis pas ce mot-là, mais parce que je pense que dans la vie, c'est parfois difficile. C'est parfois difficile parce qu'au quotidien, c'est pas toujours drôle. Eh bien, il y a des petits comme ça, des petits moments où on se dit, qu'est-ce que c'est bien finalement d'être des êtres humains, parce que il y a de l'intelligence, il y a de l'humanité et il y a des choses qui passent. Donc je crois que c'est aussi ça qu'on veut nous enlever. Et je dirais, au-delà du fait que, évidemment, l'émission de Daniel, c'est vrai que souvent, eh bien, c'est une émission qui a donné la parole aux luttes et aux résistances. Et en tant que syndicaliste, évidemment, pour moi, c'est fondamental. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que si demain, il n'y avait plus ce genre d'émission, eh bien, je crois qu'effectivement, la pensée unique aurait encore gagné dans ce pays. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Et je dirais aussi, pour terminer, une fois de plus, je crois, comme il y a un an et demi, on a dit qu'on ne cesserait pas faire par rapport au rouleau compresseur sur le traité constitutionnel européen, eh bien là aussi on ne veut pas se laisser faire par rapport à quelque chose qu'on nous impose et qui nous retirera quelque chose de fondamental. Voilà, donc moi je ne sais pas comment on peut s'organiser, ce qu'on peut faire, mais en tous les cas, on ne lâchera pas et on ne les lâchera pas. Merci.
Merci, Annick Coupé. L'une des raisons qui font que cette émission risque d'être déplacée, l'une des raisons, elle est probablement à ma gauche. J'ai eu le tort, je le reconnais, de demander à François Ruffin de rejoindre l'équipe de là-bas si j'y suis. Et il faut que ça cesse. Donc François Ruffin est là pour une seule raison, c'est parce qu'il est jeune. Et le projet de rentrée de France Inter, c'est des jeunes. Il y a eu une chasse aux vieux, vous avez vu cette chasse aux vieux formidable. Nous trois, on est rescapés. Enfin, pas Alain, mais nous deux, on est rescapés. Mais ça va pas durer, on sait très bien qu'on est en sursis. Il faut des jeunes, peu importe ce qu'ils disent, peu importe qui ils sont, mais il faut des jeunes. Alors, ben nous, on en a un, et c'est François Ruffin.
Bonsoir. Donc, moi, je suis rentré là-bas, si j'y suis, c'était en janvier 2005, et je me suis fait virer de France Inter en mars 2005. Donc, ça a mis 2 mois. C'est une anecdote qui est restée en interne, mais je pense qu'il ce soir, c'est peut-être le moment de la raconter un peu plus largement. Ce qui s'était produit, c'est que j'avais fait un appel auprès de la secrétaire d'Alain Juppé, parce que Alain Juppé avait remis la médaille à l'ancien patron de chez Daewoo, et ce patron de chez Daewoo était un escroc, il avait détourné des milliards, il vient d'être condamné dans son pays d'ailleurs, et donc nous on lui avait remis la Légion d'honneur, et par ailleurs, Alain Juppé voulait vendre Thomson à Daewoo, donc à cette personne-là, pour 1 franc symbolique, à l'époque. Donc ça me paraissait intéressant d'avoir le point de vue d'Alain Juppé aujourd'hui. Donc je téléphone à sa secrétaire, donc à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux, on me renvoie ailleurs. Je téléphone et je tombe sur le standard de l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée nationale. Je me dis, c'est pas possible ça. Bon, je raccroche, je recompose le numéro, standard de l'Assemblée nationale. Je me dis, bref, vraiment, je suis distrait, je suis fatigué. Je raccroche, je recompose le numéro. Et si, bon, allô, oui, bonjour, je sais bien, je suis avec la secrétaire d'Alain Juppé. Oui, oui, c'est bien elle. Ah bon, ben je pensais pourtant que Alain Juppé avait perdu tous ses mandats, qu'il était parti au Québec. Oui, oui, il est parti au Québec, mais vous savez bien Monsieur Debré nous a gentiment accordé un bureau à l'Assemblée nationale. Je dis non, je savais pas. Donc toute la conversation sur les 1 franc, le don de Thomson, sur la remise de la Légion d'honneur et puis tout ça. Puis à la fin, elle me dit, écoutez, si c'est comme ça, vous avez qu'à nous envoyer un courrier. Je dis, ben je l'envoie où? Elle me dit, ici. Ah bon, à l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale. Bah, pourtant, je croyais que monsieur Alain Juppé avait perdu tous ses mandats. Et là, elle s'énerve vraiment un bon coup. Bon. La conversation se termine là-dessus. Je dois dire que j'étais assez content. Je suis rentré dans le bureau de Daniel en disant, là, vraiment, je crois que j'ai trouvé un truc vraiment amusant. Bon. Lui, il avait autre chose à faire. Il consultait ses mails. Enfin, je sais pas trop. Et en revanche, le lendemain, j'étais rentré dans mes pénates, donc en Picardie, à Amiens, et le lendemain, je reçois un coup de fil de Daniel, mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu te rends compte? Tu vas nous faire sauter là-bas si j'y suis? T'as insulté la secrétaire d'Alain Juppé et tout ça? Je dis non, j'ai pas du tout insulté la secrétaire. Donc je repasse le son en entier, où il voit bien que je suis très correct, parce que je suis un garçon correct, et que c'est elle qui s'énerve à mort, quoi. Et donc, du coup, il envoie une lettre, parce que Schneider, donc l'ancien directeur de France Inter, avait dit, je veux plus entendre ce mec-là à l'antenne, je veux plus qu'on entende son nom sur France Inter. Donc, voilà, j'étais exclu de France Inter, quoi. Et puis finalement, on a laissé couler de l'eau sous les ponts, et là, il est apparu, parce qu'en fait, il y avait une enquête qui avait été menée en interne pour savoir que c'était bien moi qui avais passé de ce coup de fil. Il y avait eu tous les journalistes, d'abord de la rédaction, avaient été alertés, on avait découvert que c'était pas eux. Ah, donc, ça vient de chez Mermet. Ah. Bon. Donc, on va régler ça avec Mermet. Bon, voilà, machin. Bon, 15 jours après, on se retrouve dans le bureau du directeur de France Inter. Et là, bon, je me souviens de Daniel qui rentre en sifflant le pont de la rivière Kouai. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis finalement, on parle de toute autre chose, du temps où Juppé fréquentait les théâtres du 18e arrondissement, mais pas du tout de mon histoire. Bon, mais donc, de fait, j'étais réintégré, quoi. Mais simplement, ce que je veux dire là, c'est que là, il y avait manifestement un cas de censure politique. Moi, j'étais vachement content. J'étais vachement content parce que martyr de France Inter, c'est un truc qui me convenait très bien. Vous voyez, martyr dans la joie. C'était vraiment mon truc, quoi. Donc j'avais téléphoné au canard, le canard était amusé par cette histoire, c'était parfait. Sauf Monsieur Daniel qui voulait que je reste. Donc voilà. Donc finalement, on n'a pas parlé plus que ça. Et puis ensuite, donc, mais simplement là, pourquoi ça s'est remis d'aplomb? Parce que évidemment, il y avait déjà des bruits dans les couloirs de France Inter. On voyait que ça allait être un cas de censure politique un peu trop affiché. Vous voyez, avec Cluzel, parrain. Juppé parrain des enfants de Cluzel, ça aurait fait un peu désordre.
C'est le contraire, pardon.
Ça aurait fait un peu désordre, vous voyez. Donc, du coup, on a dit, non, bon, on calme l'affaire. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ça n'a bien sûr rien de politique, hein, le fait que la base CGJ passe à 15h. D'ailleurs, c'est un réajustement technique. Hein, c'est un réajustement technique. C'est un problème de grille, vous voyez. C'est de la technique. Il y a des audiences, il y a des sondages. Nous, on comprend pas très bien tout ça, mais on pensait qu'on se débrouillait pas trop mal. Mais bon, il y a ce problème-là. Et j'ai ressorti une interview de Cavada, donc de l'ancien PGG de Radio France, pour vous dire que ça date pas d'aujourd'hui. Et vraiment, on a l'impression que le discours est continuel. Qu'est-ce qu'il nous dit Cavada? Il nous dit la radio, c'est un produit. Il compare France Inter à un supermarché. Il dit on veut mettre tout ça sous une marque unique. On perdrait notre place sur le marché. Vous voyez un peu comment il nous cause? Et puis il nous dit qu'il faut faire des économies d'échelle. Alors faire des économies d'échelle, en clair, ça veut dire que le reportage, ça coûte trop cher. C'est ce que nous a expliqué Cluzel maintenant il y a un an, parce que il faut juste faire des interviews plateau et puis ça sera aussi bien. Et donc finalement, la crainte, là, je m'exprimerai un peu plus. Disons qu'on a eu une réunion, on en a causé avec les camarades, les autres collaborateurs de l'émission. On veut pas déserter complètement la grille, a priori. Parce que on voudrait pas qu'il y ait qu'une seule forme qui demeure sur cette antenne, qui serait celle du plateau. Parce que le plateau, enfin cette forme-là, elle a des conséquences aussi sur le fond. Je veux dire que en plateau, quand on vient interviewer quelqu'un pour parler de la banlieue, ça sera Diams qui viendra parler de son dernier album. Quand on viendra parler de la Bolivie, ça sera Gotan Project. C'est déjà ce qui se passe très largement. C'est-à-dire qu'on vient fournir un certain nombre de produits culturels. Si on parle de rural, là on va parler, il va y avoir un téléphone sonne sur les résidences secondaires, vous voyez. Et je pense que par ailleurs, je pense que il y a un risque d'autisme à un moment à fonctionner en plateau. Je veux dire, quand on rentre à France Inter, déjà on passe sous un portique, il y a un agent de surveillance à l'entrée, on prend l'ascenseur, il faut montrer son badge, on monte dans l'étage, bon, il y a la clim, on va dans les plateaux, dans les studios, il n'y a pas de fenêtre. C'est assez symbolique, cette absence de fenêtre. Et du coup, si on force pas les journalistes à aller vers l'extérieur, à aller rencontrer les gens, ce qui est pas forcément facile pour le journaliste non plus, c'est plus confortable d'attendre son invité en plateau qui a quelque chose à raconter d'office. C'est peut-être aussi plus confortable pour l'auditeur d'avoir d'avance un certain nombre de produits culturels qui lui sont refilés. Mais maintenant, pour maintenir ces formes diverses, je pense qu'il y a un truc dont on est conscient maintenant depuis plus d'un an, mais c'est qu'on n'est pas la minorité. On est la majorité. On est la majorité, simplement, on n'a pas les clés du pouvoir, mais on est quand même la majorité, quoi. Moi, à titre personnel, en tant que jeune, je peux encore me permettre d'être naïf. Je crois que c'est ça la donnée de base. C'est bien. Bon, voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est résistant. C'est bien. Mais je pense que demain, si jamais il y a un changement de majorité, si jamais il y a un changement aussi à la présidence de Radio France, si jamais à la présidence de Radio France, on n'a plus quelqu'un qui affiche ses convictions de droite catholique et libérale, mais quelqu'un qui tait, parce qu'en général, c'est ce qui produit, ses convictions de gauche laïque et progressiste, à ce moment-là, je pense qu'on aura un rôle collectif, c'est non plus d'être résistant à ce moment-là, mais c'est d'être exigeant. Exigeant pour qu'il n'y ait pas un là-bas, ça j'y suis, mais il y en ait 3-4 par jour. Pour que ça soit pas forcément la minorité, mais que ça soit aussi une majorité peut-être à l'antenne, ou du moins que ça soit pas des interstices, mais que ça soit des vrais espaces de parole. Voilà simplement ce que j'avais à dire ce soir.
Voilà, François-Marie Fin.
Voilà, merci à tous. Merci aussi à la Confédération Paysanne et François Dufour qui étaient là hier soir et qui ont nourri les 1000 ou 1500 amis qui étaient venus nous voir et se réjouir avec nous tous, avec Alain Rey, avec Louis Boson, avec Serge Halimi, aussi avec Henri Mahler du site Acrimed. Merci aussi à Florence Aubenas, à Patrick Champagne, le sociologue Patrick Champagne, à Clémentine Autain qui est intervenue hier, à Michel Léon qui se préoccupe des 100 radios de l'Est parisien, à Annie Coupé et François Ruffin. Merci aussi à la fanfare Taras Bulba qui était là hier soir, à la chorale Abalabu et à Gabonis. L'équipe de la basse J'y suis sera là cet été. Guy Ventil, avec son émission En route, sera là tous les vendredis de 20h à 21h sur Inter. Olivia Gesbert, ce sera tous les matins de l'été. Tous les matins de l'été. Notre Olivia sera là de 9h à 10h pour son émission qui s'appelle Tchat Tchat Tchatch, qui est réalisée par Bruno Carpentier, un ancien de la basse J'y suis. Yann Chouquet, Christophe Imbert, Koy Nguyen réalisent un tas d'émissions au cours de l'été. Et Pascal Le Pascariello, plein de reportages. Anne Rioux se retrouvera à la radio des Suds à Arles, ainsi qu'Antoine Chao, qui sera aussi à la radio des Suds à Arles. Et Antoine sera après dans son patelin à Uzest avec sa radio. Il a une radio dans son village, à Radio Uze. Voilà, vous retrouverez cet été d'abord du 1er au 23 juillet, de 16h à 18h, le Maillot d'Inter, une émission de Morgane de Liège et David Glaser. Et ensuite, à partir du 23 juillet, de 17h à 18h, Le Goût des Autres, une émission de Fabien Aubric. La rentrée de la basse J'y suis sera le 4 septembre prochain. Merci aussi aux amis Bertrand Roté et Marianne, des amis du monde diplomatique. Je suis sûr que j'oublie un tas de monde. J'espère que vous voudrez nous pardonner. Le tas de monde que j'oublie, bien évidemment, c'est vous tous, auditeurs de France Inter, de la basse J'y suis, qui nous soutenez de très près en ce moment. La pétition reste en ligne et nous prions de la consulter, éventuellement de la signer tout au cours de l'été. On vous informera de ce qui nous arrivera à la rentrée dès que les pourparlers auront abouti avec la direction de France Inter. À la technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Michel Bézikian, c'est Antoine Chaoyan Chouquet qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, mais voilà, le répondeur se met en vacances. Et le mail de la basse J'y suis que nous consulterons, c'est le 01, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Pub.